les cons qui ont cru que c'était moi qui m'en allais, alors que c'était le music hall qui était en train de disparaître. Très beau, très beau. Alors, sur les Belges, comme ça, on va refermer la parenthèse, évidemment. La meilleure, quand même, elle est très célèbre. Mais je vous la repose, les amis. Comment reconnaît-on un Belge dans une partouze?
C'est celui qui baisse sa femme.
C'est celui qui baisse sa femme. Personnellement, évidemment, ça me fait beaucoup rire. Laurent Malandra, on a effectivement plusieurs périodes dans la carrière de Coluche et divers pics médiatiques aussi, parce que, comme vous le disiez Romain, il avait quand même l'art d'occuper l'espace médiatique comme pratiquement personne à son époque, ni personne depuis d'ailleurs. Il y a le music hall, il y a les sketchs, il y a la radio, il y a le cinéma évidemment, où il va quand même chercher un César du meilleur acteur pour Ciao Panta en 1984. Il va y avoir évidemment en 81. Ben, la présidentielle française, il va y avoir Touche pas à mon pote, il va y avoir aussi, bien sûr, les Restos du cœur, quelques mois hein, seulement, avant de décéder. Laurent Malandra, de l'extérieur, quand on sait en plus le mode de vie, hein, parce que c'est un sacré bosseur, mais visiblement aussi un sacré fêtard, comment se fait-il qu'un seul homme ait su faire autant de choses?
J'en sais rien, je pense souvent c'est les gros feignants qui font le plus de trucs. Et chez Coluche, il y a aussi la télé, hein, c'est quand même un truc.
C'est ça qui est dingue.
Parce qu'en plus, moi je me rappelle, gamin, la radio, plus la télé, plus le musical, plus le cinéma, c'est un gros travail, quoi. Donc, et en plus, la télé et la radio, c'est vous êtes bien placé pour le savoir, c'est quotidien, c'est un boulot puissance 1000.
C'est un boulot puissance 1000, oui. Romain, vous vous souvenez-vous d'un père bosseur, de quelqu'un qui travaillait beaucoup? Parce qu'effectivement, de l'extérieur, on se dit, comment un homme a pu faire autant de choses, je veux dire.
Oui, tout à fait. Ben, je me rappelle qu'il se levait tôt, même quand il se couchait tard. C'est quelqu'un qui dormait pas forcément beaucoup. Et puis, effectivement, il travaillait énormément. Moi, je m'en suis rendu compte puisque j'ai écouté les archives d'Europe 1 à partir desquelles j'ai largement pioché pour faire ce livre. Et... donc il animait une quotidienne, on lui avait dit c'est un disque, une pub, un disque, une pub, un disque, une pub, et lui il faisait pas du tout ça, il faisait une émission vivante avec des acolytes, il a fait deux fois un an et demi, la première fois avec un dénommé Gérard Lanvin, qui était déjà un jeune comédien à l'époque, et qui a fait carrière depuis, et un autre qui s'appelait Jean-Jean, qui était son copain, voilà. Et ensuite en 85-86, il a fait une deuxième session, et c'est vrai, comme disait Laurent, qu'il faisait Europe 1 le midi, Canal Plus le soir, et qu'en plus de ça, il s'occupait des Restos du cœur, il battait un record à moto, il épousait Thierry Leluron, et...
Ouais, ça fait beaucoup de choses, quand même. Ouais, ça fait quand même beaucoup de choses, évidemment. Il disait, hein, l'art du comic, c'est donner l'impression qu'on fait n'importe quoi quand on a travaillé 10 heures sur une mimique ou une phrase. Ce qui prouve bien, évidemment, qu'il y a du travail. Elle est magnifique. Elle est page 28, pour information.
Il disait aussi, l'instabilité est nécessaire pour progresser. Si on reste sur place, on recule.
Il avait plein de phrases, effectivement, comme ça. Il aimait pas... Et puis tout ce qui était fait était fini, quoi. Directement. Ah. Et il n'aimait pas du tout se retourner sur son passé, c'est marrant, parce que moi je passe ma vie à me retourner sur le sien.
C'est ce que j'allais vous dire, effectivement, quelle différence incroyable de lui. Il disait, quand c'est fini, ça ne m'intéresse plus. Et vous, effectivement, vous passez une vie sur le passé, mais quand c'est notre père, je pense, mon cher Romain, que ce n'est jamais le passé.
Oui, et puis je me demande si c'est pas aussi ça qui fait qu'il est aussi... qu'il est toujours là aujourd'hui, 30 ans après, et qu'il est aussi moderne, c'est qu'il
bien sûr.
Voilà, il s'est jamais arrêté sur ses acquis, et il a toujours cherché à continuer à franchir des frontières, alors qu'au départ, il partait de Montrouge avec un CAP de voyou.
Un CAP de voyou. On va vous retrouver tous les deux, Laurent Malandra et Romain Colucci, dans quelques instants. Nous parlons de Coluche en ce moment, et vraiment, on vous conseille très fort ce Coluche, le dictionnaire en version non censurée. Je peux vous dire qu'il y en a pour des heures de lecture. C'est pas du tout radin. Il y a énormément d'entrées. Moi, je déteste ces livres-là quand ils sont radins. Vous savez, quand ils font 80 pages, que c'est écrit grand et qu'en fait, tu l'as lu en 13 minutes.
Une petite phrase, vite. Ouais.
Allez, une petite phrase.
Je lis pas l'annuaire, moi. J'attends qu'on l'adapte au cinéma. J'irai voir le film.
La première, entrée sans frapper.
C'est un mec qui arrive avec une toute petite voiture à la pompe à essence et il dit, je voudrais un verre d'essence et un dé à coups d'huile. Alors l'autre, il dit, vous voulez pas que je vous pète dans les pneus non plus?
ça c'est pas mal. Romain Colucci, vous êtes notre invité aujourd'hui dans Entrée sans Fabrique. Il y a aussi Laurent Ballandras. Vous êtes auteur, hein, vous, Laurent, de Coluche, un mec libre, c'était chez Textuel. Et là, on parle
avec
notamment...
Fabienne Lax.
Tout à fait, vous étiez deux. Quand même dans les trucs les plus marrants de la vie d'ailleurs. Coluche, le dictionnaire en version non censurée, c'est chez Cherche Midi. C'est donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur antenne, c'est des entrées alphabétiques de A à Z, et il y en a un certain nombre. C'est un livre assez épais, donc voilà, ça fait toujours plaisir, je trouve, que ce soit pas lu en 30 minutes, et c'est assez savoureux, et je ne résiste pas évidemment à une autre devinette. Vous savez comment on appelle un homme qui a les deux yeux dans le même trou? Jacques de Pierrefonds, une petite idée?
Ça peut être un truc dégueulasse.
Non, c'est pas dégueulasse.
Non.
Alors, vous savez comment on appelle un homme qui a les deux yeux dans le même trou? Point d'interrogation. Un gynécologue.
Et quoi, celui qui lit sur les lèvres, c'est ça?
Voilà. C'est celui-là, Jacques de Pierrefonds. Allez, Eric Russon, on enchaîne.
Je voulais qu'on revienne quand même, parce qu'on rit beaucoup, mais sur son regard, le regard qu'il avait sur ses contemporains. Quand on lit des phrases comme « En général, on épouse une femme, on vit avec une autre et on n'aime que soi », ou d'autres phrases
qui
aussi,
est puissant,
qui est très puissant. Je veux vraiment essayer de trouver quel était le regard. Est-ce qu'il avait un regard sombre sur son monde et sur les contemporains?
Sur son époque.
Ouais.
Sans concession, moi, je dirais.
Ouais.
Pas de cadeau.
Pas de cadeau. Laurent Ballandra.
Faut quand même pas oublier que c'est un gamin qui vit, qui grandit en banlieue, qui est de souche italienne et qui a une enfance où, même si elle est plutôt heureuse, parce que à ce moment-là, la télé fait moins de ravages qu'aujourd'hui, mais c'est quand même mal barré à la base. C'est quelqu'un qui a véritablement vécu le quotidien le plus difficile possible qui soit. Et forcément, il est plein de lucidité, son regard. Et ce qui fait qu'il est drôle, c'est-à-dire qu'on n'est jamais aussi drôle que quand on a de l'autodérision, quand on finit par en rire plutôt que d'en pleurer.
Alors on sait que la France, hein, comme d'ailleurs l'Europe de manière générale aujourd'hui, a un énorme problème de racisme. Un racisme qui est d'ailleurs de plus en plus libéré, une parole extrêmement libérée. Vous disiez quoi?
Aujourd'hui.
Oui, déjà hier, vous voulez dire, c'est ça?
Un peu.
Ce que je voulais dire, c'est que la parole est de plus en plus libérée, me semble-t-il.
Décomplexée.
En tout cas, et décomplexée. Alors ça a été un cheval de bataille immense, quand même, de Michel Colucci, ce racisme.
Alors oui, toute la période antiraciste. Enfin, il en a très vite parlé du racisme dans ses sketchs. Ça a tout de suite été un de ses chevals de bataille, effectivement. Et au-delà même du racisme, moi je dirais tout ce qui passait inaperçu et tout ce que les gens ne voient pas, quoi. Enfin,
c'est la déclaration à la présidentielle, hein. C'est la liste pratiquement exhaustive de tous les pour compte et des gens qui sont pas pris en compte dans la société, oui.
Ouais, les Arabes, les PD, etc., etc., etc. On se rappelle les femmes, évidemment, qui est une des grandes histoires de sa vie sur les Arabes. Il disait, a-t-on le droit de taper sur un Arabe? Oui, monsieur, en 3 exemplaires. Je suis dans l'administration, je le sais. C'est chaud, quand même. Hein.
C'est chaud, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit qu'il est de plus en plus difficile de dire certaines choses, même avec le deuxième ou troisième degré.
Mais en même temps, il s'en est pris plein la gueule, quand même. Romain, vous vous souvenez du moment d'abattement? Vraiment, il y avait une violence extérieure très puissante.
Ce qu'il aimait pas, c'était l'échec. Donc le seul moment où il a dû renoncer, c'était en 81, puisqu'il a mis un terme à sa candidature, et que là, pour le coup, il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais sinon, d'abattement parce qu'on lui résistait. Non, au contraire, c'était plutôt un encouragement.
Jacques de Pierrepont.
On a aussi l'impression qu'il ne supportait pas les faux-semblants et le mensonge. Quand il y a cette phrase qui est reprise dans le livre, « La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit », ça semble tellement évident, mais c'est une belle lucidité quand même.
Oui, mais il disait aussi que les hommes politiques et lui faisaient le même métier, sauf qu'eux mettaient moins de rouge sur le nez.
Il disait, ils n'ont pas à m'en vouloir d'être cons, c'est eux qui ont commencé.
Oui.
Oui, puis je vous coupe pour qu'on n'oublie pas non plus qu'à chaque fois, enfin jusqu'à la fin, c'est-à-dire que jusqu'à Canal+ et Europe 1, à chaque fois il s'est fait virer, hein. Dès qu'il a fait de la télé, dès qu'il a fait de la radio, ça fait un
scandale. Ça se terminait comme ça ? Bah, systématiquement. Pour quelle raison, par exemple ?
Oh, bah, il poussait le bouchon trop loin, quoi. Hein,
À une époque, en plus, on a, quoi, 3 stations de radio et 2 chaînes de télé, quoi. Donc tout le monde est au courant.
Oui, il avait fait, si je me souviens bien, il avait fait très très peu de semaines, même des jours, quelques jours à Radio Monte Carlo. Et oui, il avait à un moment donné dit « T'as vu Monte Carlo ?»« Non, j'ai vu Monte Caroline. » Et ben, il a pris la porte.
Oui. Aussi vite que ça.
Ah, c'était assez rapide.
Plus vite que moi. Ah, parce que moi, je trouve que les mecs qui sont virés sont toujours les meilleurs. Mais après ça, c'est un
avis. Et du coup, il est passé à Europe 1.
Non, mais sa force aussi, c'est qu'il s'est jamais plaint de s'être fait virer. Je sais qu'aujourd'hui, on crie au scandale et à la censure. Dès qu'un mec se fait virer, lui, c'était sa médaille personnelle.
Ses diplômes. Oui.
Ah, c'était ses diplômes, effectivement.
Il disait je pédigré.
Je comprends très bien pourquoi on me vire. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on m'a engagé.
Ce qui est évidemment pas... Ah oui, pour les mêmes raisons, à mon avis. Et c'est ça qui est très difficile dans ce monde. C'est-à-dire quand on vous engage exactement pour les mêmes raisons qu'on vous vire. Et vice-versa. Et ça, ça devait être le genre de choses qui devait évidemment le faire pouffer. Oui, allez-y.
Non, oui, vous avez raison, ça le faisait beaucoup rire.
Qu'est-ce qui vous manque le plus, vous, Romain, aujourd'hui, dans Coluche ? Alors, je parle pas du père, je parle vraiment de l'esprit.
Ah, bah, son intelligence. Sa capacité à voir les choses. Il avait un lien direct entre les yeux, le cerveau et la bouche, et ça sortait comme il le voyait. Il arrivait à dire les choses tellement clairement, avec tellement d'efficacité, que c'était un plaisir à écouter.
Ouais, c'était limpide.
Moi, je m'en lassais jamais.
C'était effectivement limpide. Est-ce qu'il est prévu de rééditer, parce que vous avez réécouté la radio, est-ce qu'il est prévu de rééditer les bandes sonores, cette fois-ci ? Non pas dans un dictionnaire écrit, mais vraiment...
C'est ce que je vous ai dit. On en a parlé 2 secondes tout à l'heure, et vous avez passé un extrait des blagues d'Europe 1. Voilà, il a fait 2 fois 1 an et demi de quotidienne à Europe 1. Des blagues comme ça, il y en a... des centaines d'heures, je les avais compilées pour les commercialiser en 1998, je crois. On avait tenté de négocier avec Lederman et son fils Alexandre en 2000, et ils ont refusé.
Ils ont refusé.
Ils ont trouvé que ça valait pas la peine.
D'accord.
Bah, voilà. C'est ça qui est difficile, si vous voulez. C'est perdu pour le public. Pas pour moi, je les ai entendus, mais... Si je vous les raconte, c'est pas la même chose.
Non, c'est pas la même chose. Je suis désolé pour vous, évidemment. Hein,
mais ouais, moi aussi.
Effectivement, c'est
la même. Merci pour cette invitation.
De rien. Bon,